Et voici la main verte avec Alain Baraton, les fleurs, les plantes. Bonjour Alain.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia,
bonjour à tous.
Une citation. Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas cueillir. André Mauroy.
C'est beau.
C'est joli.
C'est un a du goût.
Vous avez compris?
Oui, j'ai compris. J'aime beaucoup. Mais je constate que la nature et les fleurs en particulier ont beaucoup inspiré les poètes.
Alain, pour les bâtisseurs de cathédrales, l'arbre le plus précieux est le chêne.
C'est avec lui que l'on fabrique une charpente capable de soutenir des centaines de tonnes, et ce, pendant des siècles. Mais le chêne n'est pas le seul arbre à être apprécié des architectes. Il en existe un autre dont on parle très peu, et c'est dommage, car sans lui, Venise n'existerait peut-être pas.
Vous faites allusion à l'aulne ?
Oui, un végétal ordinaire qui pousse sur les terres humides et qui atteint avec peine les 15-20 mètres de hauteur. Il est l'un des arbres dont l'espérance de vie est la plus courte, 100 ans est presque un maximum. Si l'aulne est très apprécié, c'est pour son bois qui est si imputrescible qu'il est utilisé dès le XIIe siècle à Venise pour fabriquer les pilotis sur lesquels sont construits les sublimes palais et églises.
Et il existe toutefois des règles à respecter pour que son bois dure longtemps.
Il doit être intégralement plongé dans l'eau et à l'abri de la lumière. En étant ainsi employé, le bois d'aulne peut vivre des centaines, peut-être même davantage. À partir du XVe siècle, d'autres essences à Venise seront employés comme le chêne, l'orme et le mélèze. Au plus fort de la construction de Venise, il faut abattre tant d'arbres que des forêts entières sont décimées. À titre d'exemple, je le prononce pas très bien, Patricia Martin, je n'ai pas la notion de l'italien, je vous prie.
Vous parlez très bien.
L'église Santa Maria degli Assoluti, je pense avoir bien dit, est considérée comme l'édifice italien reposant sur le plus de piloti, à savoir près de 1 500 000.
Et Alain, vous m'avez expliqué que l'aulne a aussi servi les luthiers.
Il est l'un des arbres qui était le plus employé par les artisans. Son bois, et oui Pierre, a permis et permet toujours aux luthiers de fabriquer des cordes, des guitares et des basses électriques comme les Fender. Je sais que vous connaissez bien l'instrument.
Absolument. Fender Telecaster,
merveilleuse guitare. J'en étais convaincu et je pense que si on demandait à Pierre quelques artistes connus qui ont utilisé cet instrument,
il serait capable pendant
une heure. Eric Clapton, évidemment.
Et ben voilà. Il est souvent donc l'aulne, c'est un plaisir. Il est souvent préféré au bois d'épicéa, je parle de l'aulne et de cèdre. Alors avec l'aulne, on fait aussi des meubles, des sabots, des maquettes et de la pâte à papier. Son charbon de bois, ça c'est moins positif, était aussi employé pour améliorer la qualité des explosifs. La réputation de l'aulne n'a pas eu à en souffrir, car les Grecs et les Romains l'associaient déjà avec la mort. Et oui, l'aulne est souvent associée avec la mort et c'est pas très positif. Sachez enfin que l'on a beaucoup extrait de son écorce, de quoi réaliser une teinture noire et de ses chatons une teinture dorée.
Alain, les chatons sont-ils des fleurs ou des fruits ?
C'est une question qui revient d'ailleurs souvent dans le courrier que je reçois. Alors on va faire simple, ça concerne bien entendu le châtaignier, le bouleau ou l'aulne. Les chatons sont des fleurs qui sont mâles ou femelles. Les fleurs femelles ressemblent à des petits cônes de conifères, alors que les fleurs mâles, les vrais chatons, sont regroupés en chatons justement, voilà, comme d'autres plantes. Mais effectivement, ce sont donc les chatons sont bien des fleurs.
Les questions pour vous, Alain Baraton. Eh bien, Alain nous a écrit « J'ai un chéflera en pot et souhaite le planter en terre sur la Côte d'Azur au soleil. Pensez-vous qu'il va s'épanouir ?»
Je n'aurais pas la provocation de vous demander d'épeler le mot que vous venez de prononcer.
Non, merci Alain.
Je vous rassure. Allez-y. Le chèvre-fleur est une très jolie plante d'intérieur, ce que l'on appelle une plante verte, mais dans son pays d'origine, c'est un arbre qui a besoin d'un minimum de température. En dessous de 8 degrés, vous oubliez le chèvre-fleur. Déjà, en dessous de 8, on l'oublie. Et en fait, pour qu'il soit bien, il faudrait une température constante et moyenne de 15 degrés. Je ne connais pas beaucoup de régions, même sur la Côte d'Azur, qui sont capables d'accueillir dans un jardin un chèvre-fleur, donc comme une plante, permanente. Donc ne le plantez dans le sud de la France que si vous êtes dans la région dite de l'Oranger, uniquement en plein sud et uniquement si c'est protégé des vents, du froid et du gel. Autant vous dire que c'est pas gagné.
La nature avec Alain Baraton. Les merles sont revenues, hein.
Oui,
Alain,
vous l'avez entendu.
C'est formidable.
Ils chantent le matin, c'est un bonheur.
Les flûtistes. Et un plaisir. Mais vous avez des merles nombreux à Versailles ?
Ah, il y a beaucoup d'oiseaux, mais je déplore, comme Alain Bougrain-Dubourg le fait également de son côté, la disparition, la raréfaction des oiseaux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre pour faire revenir dans les villes les petits oiseaux. Car vous remarquerez, Pierre, vous qui êtes un habitué du jardin du Luxembourg, qu'on y voit beaucoup de pies, on y voit des pigeons, on y voit des corbeaux, enfin, des corneilles, mais on n'y voit plus beaucoup le petit piaf. Il est en train de disparaître et c'est grave.
Et le merle est un prédateur très utile pour vous, pour les jardiniers.
Mais pour quantité d'odeurs, voilà, quantité d'insectes. Comment voulez-vous qu'un cerisier donne de belles cerises si la petite mouche qui vient pondre peut le faire en toute tranquillité ?
Et quand le merle est moqueur ?
Absolument.
Et que le rossignol est gai, il y a des cerises. Eh c'est oui. Le temps des cerises.
Eh oui. Les questions pour Alain. Corinne, on m'a offert un petit cèdre rapporté d'une pépinière libanaise. Il doit avoir environ 4 ans. Dois-je enlever la gangue d'argile humide et compacte autour de ses racines pour le planter ou bien laisser ainsi?
Moi, je ne connais pas du tout ce système. Je le connais pour les rosiers, mais pour des cèdres. Je ne savais même pas qu'il était légalement possible de faire venir du Liban des cèdres en pépinière. Peut-être, mais j'ai quand même un petit doute. Mais ne jouons pas ce matin, les gendarmes. La nature est belle et soyons heureux. Donc non, laissons telle qu'elle la chose. Regardez simplement si cette petite protection est vraiment trop rigide. Si elle l'est, n'hésitez pas avec un petit ciseau ou un couteau à l'ouvrir, à l'écailler très légèrement, mais plantez-le tel quel.
On transpose hein, des arbres. Quand on voit des oliviers, par exemple, qui viennent de pays du Sud et qui sont déjà des gros.
Fin... Oui, mais il y a des règles phytosanitaires extrêmement strictes à respecter. Il est interdit, par exemple, de faire venir du continent américain des végétaux avec un œil ouvert ou avec de la terre. Donc tout est, comment dire, très réglementé. Mais il faudra qu'on revienne sur cette antenne pour parler du scandale de l'introduction en France des oliviers millénaires arrachés sur leur terre natale.
Patricia, avec Alain Baraton, une suggestion de promenade.
J'ai pensé à vous, Patricia, et j'ai envie de vous inviter à Cheverny, où il y a ce week-end un concours merveilleux, chapeau au château, un concours d'élégance avec des chapeaux. Il faut dire que les chapeaux, parmi les membres
on
du jury...
On ira en choisir un avant, alors, parce que j'en ai pas pour le moment.
Parmi les membres du jury, Alain Souchon, Franck Provost, Jean-Claude Narcy, des personnes qui sont réputées pour leur élégance, et je vous parle, la marquise de Vibray, bien sûr, son Altesse Royale, la princesse Chantal de France. Donc c'est amusant, c'est à Cheverny, l'occasion de découvrir un lieu, une région, un château d'exception et un jardin qui vole des tours.
Alain Baraton, à demain.
À demain.